Oh, it's a perfect skin.
Thank you.
lived my life out the best that I could, that I gave my children, which I will have.
Justin was born December 25th, 1971, 9 months after Pierre and Margaret's honeymoon in British Columbia. Long before the couple traveled to Cuba.
Coming right up, okay?
I hope
so. This is where
I'll
they screwed up the dates.
I've done something useful in the world.
Justin was born December 25th, 1971, 9 months after Pierre and Margaret's honeymoon in British Columbia. Long before the couple traveled to Cuba.
Justin Trudeau today.
I think I would like to know.
Thank you. Bonsoir Ksenia Hermoshina.
Bonsoir Eric.
Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Ksenia Hermoshina, vous êtes activiste. Enfin, là, je dis ce que j'ai trouvé sur le web. Hein. Moi et Louise Van Ardois, qui est d'ailleurs avec nous. Vous êtes activiste, vous êtes une universitaire, vous êtes aussi une citoyenne, vous êtes citoyenne russe. Je ne sais pas si vous êtes citoyenne française aussi, mais vous voyagez. Vous avez réalisé des projets de recherche dans différents pays. Votre terrain, on pourrait dire, si on parle en termes d'ethnographie, c'est surtout la Russie. Qu'est-ce qui vous a amené comme citoyenne à vous intéresser donc à l'activisme et au cyberactivisme en Russie?
Alors, ça a commencé depuis... ça va faire 4 ans à peu près que je m'intéresse aux usages des technologies mobiles dans les contestations russes. Et ce qui m'a amené à m'intéresser à ça, c'est ma propre expérience déjà. Face aux falsifications des élections en 2011, quand on a vu qu'avec des moyens traditionnels du militantisme de rue, qui est très développé en France par exemple, où les gens peuvent manifester librement, descendre dans la rue, faire la grève, utiliser un répertoire d'action, ce qu'on appelle un classique. En Russie, ce n'est pas possible. Descendre dans la rue, c'est de se mettre en danger. Alors qu'est-ce qui reste? C'est de se cacher derrière les écrans et utiliser des technologies pour documenter sur tout ce qui se passe et pour fixer des anomalies qu'on témoigne. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me concentrer plus précisément sur l'usage des technologies mobiles dans la politique contestataire en Russie.
Est-ce que c'est ça que vous appelez la gestion et le care dans l'espace public? Vous utilisez ça dans votre profil au Centre de sociologie et de l'innovation auquel vous êtes affilié?
Ça fait partie des notions qui, en fait, apparaissent quand on commence à approcher plus précisément l'objet que j'étudie, donc les applications, ce qu'on appelle citoyennes, les applications qui sont développées pour pouvoir permettre aux citoyens de co-gérer la ville avec les administrations. Et là, on est dans une optique assez intéressante parce que ce n'est pas de la contestation frontale, de l'opposition frontale au pouvoir, mais c'est plutôt une tendance de dire, nous, on peut aussi faire quelque chose, nous, la multitude, les citoyens, si on est armés avec des outils comme les technologies mobiles, les applications, on peut participer à une co-construction de la ville et on peut fixer des anomalies, on peut dire ce qui ne va pas et donc gérer ou take care de cet espace urbain.
Ksenia, pouvez-vous nous parler un peu davantage de ces applications? On dit appli en France, ici sur l'App Store, on dit app dans la version québécoise francophone du App Store. Ce sont des applications, j'imagine, qui sont autant pour iOS, donc pour téléphone Macintosh, Mac, pardon, Apple, voilà, pardon, Apple qu'Android. Quelles sont les applis qui vous ont intéressé? Quelles sont les applis les plus utilisées par les citoyens en Russie?
Alors, vous allez rire, mais l'application la plus populaire, elle est faite pour signaler les nids de poules sur les routes. C'est la première application qui a été développée en Russie en 2010-2011 par Alexei Navalny, qui est un homme politique d'opposition très connu, un blogueur, aussi un avocat, qui a été assigné à domicile. Il a passé un an à peu près enfermé chez lui, entre autres pour ses projets numériques qui ont mobilisé un nombre assez large de personnes qui n'étaient pas prêts à descendre dans la rue, mais en revanche utilisaient un smartphone de temps en temps pour signaler un nid de poule à côté de chez eux. Pour ça, ils étaient prêts.
Vous savez qu'à Montréal, les nids de poules, c'est un grand sujet de discussion à tous les printemps. Je ne sais pas si on vous l'a dit. Là. Ici, c'est une obsession.
J'imagine que c'est la neige qui rapproche les deux pays. Et donc, cette expérience des nids de poules, ça doit faire partie du quotidien aussi ici. On m'a dit, oui, un peu. On m'a parlé des routes québécoises, montréalaises. Mais en Russie, c'est encore plus un problème culturel. Il y a une expression qui dit il y a deux problèmes en Russie, c'est les fous et les routes. Donc, les deux problèmes sont liés. Et comment développer une solution qui marcherait pour les deux? Et donc, cette application qui existe en version web comme un site où on peut consulter une carte collaborative et voir les nids de poules signalés avec des petits points rouges verte pour les problèmes résolus et bleu ou jaune pour les problèmes suspendus. Et aussi en version mobile pour Android et iOS.
Comment s'appelle cette application ? Est-ce qu'on peut la télécharger, nous, à partir du Canada ?
Je crois qu'il n'y a pas de restriction géographique. Vous pouvez essayer, mais après, l'application est en russe. Donc, il faut savoir parler russe pour l'utiliser. Elle s'appelle Rosyama. Donc,
R-O-S-Y-A-M-A.
C'est ça. Ça veut dire un trou russe ou nid pool russe.
Et il y a d'autres applications aussi. Lorsqu'on a fait des recherches sur votre travail, on s'est aperçu qu'il y a l'application BIBR aussi.
Oui, alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment étudié parce que cette application a été développée avant que j'ai commencé mon terrain. Et ça fait partie des applications satellites que j'ai touchées un peu, j'ai lu, je me suis renseignée, mais je n'ai pas vraiment fait de recherche d'entretien avec l'équipe qui l'a conçue. Mais pour être bref, cette application concerne les pratiques des pots de vin. Donc c'est encore un autre problème très, très connu, important en Russie. Et comment pouvoir dénoncer cette pratique sans se mettre en danger. Et c'est pour ça que les applications mobiles peuvent être utiles pour anonymiser cette pratique et la rendre pas très dangereuse.
Est-ce que plusieurs citoyens utilisent est-ce que c'est utilisé, c'est très populaire, c'est utilisé par un grand nombre de gens, ces applis?
Cette application Bieber n'est pas très utilisée. En revanche, il y a une autre application consacrée à la corruption qui s'appelle Rospil, qui est aussi développée par Navalny et sa fondation contre la corruption. C'est une ONG qui l'a fondée, donc, et dans le cadre de cette ONG, il a fait trois projets. Donc Rosyama, Rospil et RosJKH. Alors la troisième application, elle traite tout ce qui est problème d'utilité. Donc des services qui se trouvent à l'intérieur de la maison. Donc le gaz, l'électricité, l'eau, l'hygiène de la propriété, l'escalier, les ascenseurs, etc. Et donc oui, ces trois applications sont très, très utilisées. RosJKH compte à peu près 400 000 cas déclarés. Dont à peu près entre 25 et 30 % sont résolus.
Dans une conférence qu'on a pu voir sur le web, vous dites que le code juridique est lié dans ces applications, code informatique, mais aussi au code des comportements des citoyens. Pouvez-vous nous en parler?
Alors oui, c'est important parce qu'il y a les trois dimensions. Il y a la dimension légale qui est très importante parce que lorsqu'on dénonce un problème, on peut le dénoncer avec nos propres mots, en disant « Ah, ça fait 10 ans que j'attends qu'on répare mon ascenseur, ma mamie est très vieille, elle est obligée de marcher toute seule au quatrième étage ». Mais l'administration n'acceptera probablement pas ce genre d'explication. Elle ne veut qu'entendre quel est le problème, l'adresse et... comment elle peut intervenir pour résoudre ce problème. Et c'est pour ça que les développeurs de ces applications ont collaboré avec les juristes qui ont retravaillé le code du logement à l'occasion. Pour RosJKH, c'est le code du logement qui a été utilisé, les standards techniques. Et ils se sont inspirés de ces textes ennuyeux, vraiment, très boring, pour les réduire à des interfaces très claires et faciles à utiliser, en proposant aux utilisateurs des catégories de problèmes. Donc la première chose qu'un citoyen va faire, c'est de choisir entre les trois grandes catégories, est-ce que ça concerne la maison, la cour, la route, et ensuite, à l'intérieur des trois grands cas, il va avoir des sous-catégories. Donc le code légal, le juridique, va permettre aux citoyens de traduire son langage émotionnel et personnel vers un langage interpersonnel et officiel des administrations. Le code de comportement, il est dedans aussi parce que ça façonne en fait notre manière de communiquer avec les administrations. Ça transforme la chaîne communicationnelle. Au lieu d'utiliser les techniques classiques des plaintes, parce qu'il faut savoir qu'en Russie, il y a une grosse culture de plaintes. Tout le monde se plaint à n'importe quel sujet. Et les historiens ont étudié ces plaintes comme une forme de genre littéraire, en fait. Ça devient une sorte de littérature. On se plaint au tsar, au 19e, 18e siècle. Ensuite, on se plaint à Staline, on se plaint à Poutine. Et finalement, ce langage de plaintes, il déborde. Et les administrations sont fatiguées. Ils appellent ça les plaigneurs classiques, chroniques. Donc, les applications servent aussi à cadrer cette activité et à changer le code de comportement des citoyens.
Ksenia Hermoshina, vous avez parlé de la notion d'anonymat dans l'usage de ces applis. Pouvez-vous nous en parler davantage? Parce qu'il me semble tout de même qu'il existe des outils dont disposent les gouvernements, souvent pour retracer et traquer de quelle adresse IP ou de quel téléphone vient le message. Dans le cas de l'usage d'une application comme celle qu'on mentionnait un peu plus tôt, BIBR, où les citoyens l'utilisent pour dénoncer la corruption, ça peut poser des problèmes. Ça peut être dangereux d'utiliser une appli comme ça.
Oui, effectivement, ça fait partie des choses dont les développeurs ne se rendent pas forcément toujours compte. Mais c'est le prix qu'on paye pour la participation citoyenne. Et ça, il faut savoir aussi que ces applications, effectivement, ne sont pas protégées contre un potentiel flicage du côté des gouvernements. Mais il existe des techniques pour contourner ça. On peut installer des équivalents de Tor sur mobile qui s'appellent Orbot. C'est un navigateur qui imite Tor, donc un autre navigateur qui va cacher votre adresse IP et vous permettre de surfer le web en étant presque intraçable. Cependant, le problème des applications mobiles, techniquement, c'est qu'ils sont attachés à un smartphone particulier. Quand on download une application à partir de l'App Store, on va être traqué parce que notre iPhone est unique. Il a un numéro de série et iTunes va s'identifier tout de suite. Donc ça fait partie des problèmes. Cependant, ce genre d'activisme n'a jamais... En ce qui concerne les durées de ma thèse, n'a jamais posé de problème. Il n'y avait aucun cas où un citoyen a été arrêté ou menacé suite à l'usage de ce genre d'application.
Pour nous, Nord-Américains, c'est assez étonnant. Ce n'est pas des applications qui nécessairement existent, ou si elles existent, en tout cas, elles ne sont pas très populaires ici en Amérique du Nord et même en Europe, en France, tout ça. Louise, je ne sais pas si tu peux corroborer, là, mais...
Non, tout à fait.
C'est un peu nouveau pour nous. Ce qui est étonnant, quand on pense à la Russie, déjà, vous avez mentionné dans une des conférences sur le web aussi qu'on avait eu droit à pas mal d'images sur YouTube, souvent de mauvaise qualité, comme vous l'avez d'ailleurs souligné, de la comète qui tombe parce qu'un grand nombre de citoyens ont des caméras dans leur voiture qui font office de ce qu'on appelle le cop watch ici, mm-hmm. pour voir si la police n'abuse pas de son autorité, mm-hmm. et donc avoir des preuves ou essayer de revenir ou en tout cas se protéger parce que ça fait un effet dissuasif avoir une caméra déjà. Donc déjà en Russie, avant même l'apparition des applis, déjà il y avait ce cop watch avec les mobiles. Est-ce qu'on pourrait dire que l'apparition des téléphones mobiles a révolutionné le rapport entre les citoyens et les gouvernements en Russie? Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là?
Alors, ça, c'est vraiment fort, mais ça, vous avez en partie raison. Ce qui s'est passé, c'est que, dès que la partie de population qui a des voitures, et c'est une partie de population russe aisée, donc ça fait partie des classes moyennes, les classes, disons, populaires n'ont presque jamais accès aux voitures ni aux smartphones. Donc, dès que cette partie de population a pu se permettre les smartphones qui filment, etc., ils se sont mis à filmer tout ce qui n'allait pas autour d'eux. Notamment, ce sont les conducteurs, c'est la première communauté professionnelle ou communauté de pratique plutôt, ce qui partage la même pratique, c'est de conduire et d'avoir une voiture, une communauté d'expérience. Donc, cette communauté s'est mise à filmer. Les comportements des policiers, c'est un fléau. Les pots de vin auxquels la police routière insiste, en fait, sur lesquels elle insiste en menaçant les conducteurs de les priver de leur permis de conduire, d'enlever les points, etc. Donc, on avait le choix soit de donner des pots de vin, soit d'avoir un registrateur ou une caméra web, caméra mobile, pour dire « je suis moi aussi armée ». Toi, tu as une baguette, un pistolet, moi j'ai un smartphone. Mais par contre, il y avait ce problème d'hétérogénéité des données. Et le fait que chacun mettait ses vidéos sur une plateforme différente. Oui, ça peut être YouTube, mais il y avait une centaine ou même milliers de comptes YouTube différents. On n'avait pas de statistiques citoyennes vraiment qui pourraient regrouper tous ces cas individuels et montrer ça comme un problème public. C'était des expériences personnelles, privées, troublantes, difficiles, mais personnelles. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à monter des plateformes, une sorte de Wikipédia des conneries de la police routière russe. Donc une sorte de collection des vidéos où on pouvait témoigner des comportements étranges des policiers. Et une des premières plateformes, elle s'appelle Avtechmo. Tchmo, c'est un gros mot russe qui veut dire bâtard ou quelqu'un qui se comporte mal, en fait. Donc, c'est un site qui regroupe les vidéos, non seulement des policiers agressifs, mais aussi des autres conducteurs agressifs qui ne respectent pas le code routier. Et cet outil est devenu une espèce d'instrument d'auto-coordination, auto-censure ou plutôt autogestion d'une communauté de conducteurs. Et à force d'avoir peur d'être dénoncé et de se retrouver sur cette plateforme, les gens ont commencé à faire un peu attention à la façon dont ils conduisent leur voiture.
Ksenia Ermoshina, quelle est la proportion de citoyens russes qui possèdent un téléphone intelligent, un smartphone?
Alors, je crois que là, je ne pourrais pas vous dire les chiffres précis, mais ça a augmenté à cause des forfaits, le même système qui existe en France. Ça coûte presque rien de l'acheter en ce moment, une fois que tu te souscris à un abonnement chez un opérateur mobile. Donc, je ne peux pas te donner des chiffres, je ne veux pas mentir, mais ça doit être autour de 60%.
Et donc, ce 40% qui reste, qui n'ont pas accès à cette technologie, parce qu'en fait, c'est un peu paradoxal. D'une part, on a ces applis qui permettent aux citoyens de s'exprimer, de répondre à la corruption, de trouver des solutions, de proposer des solutions aux problèmes. Mais il y a une proportion de la population qui est exclue de ce, on pourrait l'appeler presque un forum, ou en tout cas cette possibilité. Comment vous envisagez ce 40%? Est-ce qu'il est... comment vous voyez, en fait, cette disparité? Il y a comme maintenant deux classes de citoyens. Quel pouvoir de pouvoir agir et de se plaindre, et l'autre qui ne l'a pas nécessairement.
Alors oui, là, vous touchez à quelque chose qui est très important pour les chercheurs en communication. C'est le problème de la fracture numérique, Digital Divide. Il y a même un groupe de travail au sein de IMCR qui s'occupe de cette question, le Digital Divide. Et oui, effectivement, les technologies créent une inégalité d'accès, non seulement économique, mais aussi culturelle, parce que pas toutes les personnes maîtrisent ces outils, pas toutes les personnes maîtrisent de la même manière les moteurs de recherche et n'ont pas les mêmes pratiques d'usage. Donc même à l'intérieur de ces 60%, on aura 90% des personnes profanes du point de vue usage des technologies Internet et une petite minorité de spécialistes qui vont profiter vraiment pleinement des possibilités que les technologies nous offrent. Et comment on gère ça? Il y a un mouvement très intéressant au sein de cette minorité active, c'est de go offline, donc imprimer des affiches ou des tracts classiques et de les coller dans les halls d'immeubles, sur les murs, distribuer dans la rue, où ils vont expliquer aux gens qu'il existe des moyens de gérer leurs problèmes, par exemple dans la cour, sur la route, avec Internet. Ils donnent des liens sur des sites web. Les sites web sont accessibles presque à toutes les personnes qui ont au moins un ami avec un ordinateur. Donc ça élargit un peu le champ des usagers potentiels de ce genre d'outils. Ou sinon, ils donnent leurs propres coordonnées et ils disent, si vous voulez, on peut vous aider, on peut travailler avec vos problèmes. Et pour ça, ils organisent ce qu'ils appellent les inspections citoyennes. Ce sont des photopromenades, des promenades d'une dizaine, quinzaine de citoyens qui choisissent un quartier dans la ville et ils se promènent avec leur smartphone, avec l'application. Ils interrogent les voisins, les habitants du quartier sur qu'est-ce qui ne va pas. Et j'ai observé ça pour ma thèse. Et j'étais agréablement surprise de voir des femmes et des hommes assez âgés qui étaient émus et participaient à ces promenades. Ils disaient ah, « Tiens, je vais te montrer qu'est-ce qui se passe dans ma cour. » Ils montraient qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'ils ont eux aussi leur expertise de la ville. Ils connaissent la ville souvent mieux que les jeunes. Ils y passent beaucoup de temps dans leur quartier. Et donc, les jeunes, avec leur smartphone, collaboraient avec des personnes âgées, expérimentées, qui, donner leurs propres conseils aussi à comment gérer les problèmes urbains. Donc il y a une tendance intéressante de collaboration entre offline et online.
Xenia, ces applis qu'on appelle comme Rosyama et ces applis que vous mentionnez, il n'y a pas un danger que ça puisse servir de délation, genre ah, j'aime pas mon voisin qui devrait réparer le truc, alors je vais envoyer un message négatif à son égard pour que les gens se liguent contre lui. Il y a quand même des dangers, il y a quand même, ça soulève des problèmes, ça soulève des... Ça peut soulever des situations conflictuelles ou problématiques, non?
Oh, je suis d'accord avec vous. Et même, je me demande parfois si ce ne sont pas des formes de contre-surveillance ou de surveillance.
Bien sûr, ouais, oui.
Et une espèce de stalinisme au visage humain. Parce que c'est ce qui se passait à l'époque de Staline, quand les voisins dénonçaient leurs voisins juste pour avoir leur chambre dans l'appartement communautaire, en disant qu'ils ne font pas bien leur travail. Donc là, on a en plus des technologies pour que ça se passe encore plus vite qu'une lettre écrite à la main. Mais je n'ai pas vu ce genre de cas dans mes travaux de terrain. Cependant, les acteurs eux-mêmes, donc les développeurs, quand je dis acteurs, ça veut dire les personnes qui sont engagées dans la production de ces applications, donc les développeurs et les activistes se rendent compte de ce problème. Donc ils savent que potentiellement des détournements sont possibles. Et bon, disons, le coût, le danger est présent, mais il est rare et les bénéfices de ces applications sont beaucoup plus importants que ce risque d'être utilisé comme moyen de dénonciation. Et par contre, il y a des cas extrêmes. Il y a une application sur laquelle peut-être vous n'avez pas trouvé d'informations parce que je n'ai pas encore publié d'article sur cette application. Elle s'appelle Spot. C'est une application pour dénoncer les personnes mal garées.
Oh là là, ben là on est vraiment dans la délation. Là.
Voilà, c'est pour ça
oh là
que
là, ah, ouais.
C'est pour ça que je veux consacrer un papier à part à ce cas.
Oui.
Parce que déjà, en France, il y a la CNIL qui protège les utilisateurs contre notamment les risques d'afficher leur plaque d'immatriculation. Ça fait partie des données protégées. Personnel. Alors que cette application, est au contraire, elle insiste, prenez les photos des personnes mal garées avec la plaque d'immatriculation de la voiture pour qu'on sache qui est le pip qui a mal garé sa voiture.
Et ça, c'est pas une application qui a été créée par l'équipe de Monsieur Navalny, là.
Non.
Pouvez-vous nous parler de ce personnage? Parce que quand on fait des recherches sur lui, il est fascinant. Sa photo sur Wikipédia, on dirait une star de cinéma. Il y a une pose comme ça, il y a la caméra, un éclairage. Puis quand on lit ce que sur Wikipédia, en tout cas en français, on voit quand même qu'il est associé à un mouvement politique qui est à gauche, mais qui est aussi très critique envers l'immigration.
Oui.
Pouvez-vous nous parler de ça? Parce que c'est un personnage assez complexe.
Oui, Navalny, effectivement, c'est un personnage très... à multiples facettes. Donc, tout d'abord, il est très innovant dans sa campagne politique. Donc, il s'est présenté aux élections de maire de Moscou en 2013. Il a eu à peu près 20% de voix, peut-être même plus. Donc, il a failli gagner les élections grâce aux méthodes qu'il a utilisées, à savoir un mix entre les technologies Internet et des campagnes hors ligne, avec une distribution des tracts, un système de bénévolat décentralisé qui est basé sur l'enthousiasme, la jeunesse et tout ce genre de valeurs assez intéressantes. Et les projets qu'il produit, donc ces applications, entre autres, jouent sur la mode aussi des technologies mobiles et aussi la légèreté de la participation qu'il propose. On ne s'engage pas. On utilise... notre smartphone, comme d'habitude, comme si on cherchait une station de métro le plus proche, sauf qu'en même temps, on participe dans un projet plus grand. Et c'est en jouant sur ce côté dépolitisé des problèmes, comme nid de poule, qu'il implique les gens dans un mouvement politique. Et on peut même parler de la manipulation. Parce que, par exemple, ce que j'ai observé dans mon terrain, nombreux sont les utilisateurs de ces applications qui ne savent même pas que Navalny est derrière. Et qui se plaignent après de recevoir du spam qui vient de sa part. Une fois, parce que quand tu installes cette application, tu donnes ton adresse mail, tu crées un compte et ton adresse mail est récupérée. Et ensuite, tu reçois des mails venant de Navalny qui dit « Salut, je suis Navalny, votez pour moi » et ainsi de suite. Donc, il y a ce côté qui est assez problématique. D'un côté, oui, il utilise ses ressources qu'il a, on peut le comprendre. De l'autre côté, pas tous les utilisateurs sont au courant. qui participent à ça, en fait. Ils pensent qu'ils réparent juste leur trou sur la route. Et concernant sa politique d'immigration, oui, il est assez nationaliste. Et c'est ça qui fait qu'entre autres, moi, je ne voterai pas pour lui, malgré l'attractivité de ses projets numériques. Il propose des politiques assez strictes contre les travailleurs qui viennent des anciennes républiques soviétiques comme Tadjikistan ou Kazakhstan, Ouzbékistan, etc. Alors que la racine du mal, elle est dans le capitalisme et pas dans les personnes, la couleur de leur peau et leurs croyances.
Il s'affiche ouvertement comme anti-Poutine. Ça lui a attiré des ennuis, ça ou...
Bien sûr. Comme j'ai dit, il a passé un an assigné chez lui, sans droit d'utiliser des technologies d'information et communication, par ailleurs. C'était sa femme qui assurait le contact avec le grand monde.
Ksenia Ermochina, vous avez un parcours comme activiste en parallèle ou peut-être qui a commencé même avant votre parcours académique. Pouvez-vous nous parler de ce qui s'est passé? Comment ça vous a transporté, on pourrait dire, vers des actions de rue? Vous parlez de performance. Il y a une université hors les murs que vous avez étudiée. Pouvez-vous nous parler un peu de ce qui vous a amené là où vous en êtes aujourd'hui, quoi? Nous parler un peu de votre passé.
Alors oui, c'est très lié, les parcours académiques et le parcours activiste. Je pense que ça fait partie, c'est la même médaille, en fait, de facettes. Parce que je pense que je fais de la recherche-action. Donc j'essaie d'aider les personnes que j'étudie et participer à ce qu'ils font. Et ça a commencé au moment où je me suis dit, j'étais à la fac de philosophie à Saint-Pétersbourg, hein, parce qu'à la base, je suis philosophe, j'ai étudié le miracle, le concept de miracle et de merveilleux. Et je m'intéressais à la gnosiologie, à l'histoire des sciences. Mais à un moment, je voulais continuer avec la langue française. Il y avait une possibilité de suivre un parcours de 2 ans en sociologie, en français. Et je devais choisir un sujet de recherche qui pourrait intéresser potentiellement les professeurs qui vivaient et travaillaient à Paris. Et c'est là où j'ai trouvé l'Université hors les murs, qui était organisée par mes collègues de la fac de philo et qui est une forme très intéressante de transmission de connaissances qui a apparu en peu près 2007-2008 à Saint-Pétersbourg, suite à la fermeture de la fac Université européenne Saint-Pétersbourg. Et c'était le premier grand mouvement étudiant après la perestroïka à Saint-Pétersbourg, qui a vraiment bouleversé le paysage militant à Saint-Pétersbourg. Et là, il y avait toute une vague d'actions très artistiques, innovantes, que j'ai étudiées. Et à force de les étudier, bon, il y a l'observation participante comme méthode. Donc j'ai participé à plusieurs performances de ce groupe. Et j'ai pris goût à ça. J'ai trouvé que c'était quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai fait aussi du théâtre en étant jeune, adolescente, et ça m'a rappelé les moments où tu sors sur scène, t'as le trac, sauf que c'est réel, c'est vrai, il y a des vraies personnes autour de toi, ce ne sont pas des spectateurs, ce sont des policiers ou des...
Donc c'est des performances de rue, des performances dans l'espace public.
Exactement.
Pouvez-vous nous en décrire quelques-unes?
Oui, bien sûr, avec plaisir. La première, je pense que la première performance que j'ai faite, c'est une des meilleures. Le problème qu'on a adressé, parce que pour moi, bon, les performances politiques adressent toujours un challenge, un défi. Donc, elles doivent proposer une réponse, une interprétation artistique d'un défi, d'un fléau, d'un problème. À l'occasion, c'était la cléricalisation de l'enseignement supérieur en Russie. Donc, l'installation en fait des églises dans les facs en Russie. Et c'est lié avec la propagande de l'Église orthodoxe et avec l'idéologie de Poutine.
C'était vers quelle année, ça?
C'était en 2009.
D'accord.
Donc, c'était déjà le début de la fin, le début du retour de la grande main poutinienne sur la Russie. Il voulait commencer par les valeurs, c'est bien logique. Donc, les valeurs orthodoxales, la famille, etc. Et il a commencé par introduire la religion, l'enseignement de la religion orthodoxe, pas n'importe quelle, parce que j'aurais pu comprendre si c'était les religions du monde, l'histoire des religions, etc. Non, c'était l'orthodoxie obligatoire pour les écoles primaires. Donc ça veut dire que un enfant commence son parcours dans la vie avec « monde a été créé en 7 jours ». Bon, d'accord, pas de théorie d'évolution, « monde a été créé en 7 jours ». Ok, et donc on a décidé de réagir par rapport à ça et on a intervenu pendant une conférence organisée par les religieux à l'université de Saint-Pétersbourg, là où on était, juste à côté de notre faculté. On considérait ça comme un défi, en fait, qui a été lancé aux étudiants. Et donc, on s'est déguisé comme ennemis de l'Église orthodoxe. Il y avait des filles habillées de manière provocatrice, avec des mini-jupes, super maquillées. Il y avait un couple homosexuel, parce que les homosexuels en Russie, malheureusement, sont dans une situation très compliquée. Et à l'époque, c'était déjà le cas, ça commençait, l'homophobie. Ensuite, il y avait une fille voilée, donc, qui représentait l'islam comme une des religions dont l'Église orthodoxe a très peur. Il y avait un garçon habillé, un habitant de banlieue, donc un peu agressif, un sataniste. Et petit à petit, donc, on entrait dans cette salle majestueuse. C'est une salle dans un bâtiment qui date du XVIIIe siècle, avec des colonnes, tout ça. Donc, il faut imaginer plusieurs centaines de personnes assises qui écoutent un prêtre qui parle devant ce public-là. Et on entre petit à petit et chacun joue son rôle. Moi, je faisais partie des deux filles, donc, provocatrices, qui mangeaient une banane, qui se maquillaient juste en face de... du prêtre. Et ça, progressivement, avec l'arrivée du couple homosexuel qui s'est embrassé au milieu de tout ça, ça a provoqué un scandale. Les vigiles ont commencé à essayer de nous déloger, nous expulser de la salle, mais on a commencé à jeter des tracts où on a clairement exposé notre position. Pourquoi on fait ça? On n'est pas juste en train de faire n'importe quoi. On a une position très claire. L'université, ce n'est pas un monastère. Ça doit rester laïque. Et si vous voulez les religions à l'université, alors pourquoi il n'y a pas de bouddhisme? Pourquoi il n'y a pas d'islam? Pourquoi il n'y a que l'orthodoxie? Donc, ce n'est pas normal. Et ça a été diffusé sur Internet le lendemain, parce qu'on collaborait avec les médias, donc c'était assez bien organisé. Et l'action a eu beaucoup de retours. Par exemple, on a été invité à la radio en Russie.
Ah oui?
Ouais, pour débattre avec les prêtres.
Et qu'est-ce que vous pensez des Pussy Riot?
Oh, la grandeur des Pussy Riot est dans le passé.
D'accord.
C'était bien. C'était très très bien, leur action dans la cathédrale à Moscou. Ils ont touché des cordes, ils ont touché quelque chose de très très important dans toute la stratégie poutinienne. Et c'est pour ça qu'elles ont été réprimées de cette manière disproportionnée par rapport à ce qu'elles avaient fait. Mais... aujourd'hui, elles sont devenues des personnes médiatiques. C'est pas plus mal, mais je trouve que bon, leur âge d'or est dans le passé.
De vous dire qu'elles sont moins subversives maintenant.
Oui, bien sûr. Elles jouent leur rôle. Elles jouent un autre jeu, en fait.
Faut dire qu'on les a vraiment dissuadées de continuer. Elles ont quand même beaucoup souffert.
Oui.
Donc, ça veut dire que la répression, dans un sens, fonctionne. C'est un exemple... de l'effectivité de la répression de Poutine, peut-être. Ce qui est un peu dommage, non? Je ne sais pas, comment vous le percevez? Pourquoi ils se sont assagis ou...
On peut dire que c'est le résultat des répressions, mais il faut dire que, bon, il y a une autre dimension de leur activité que je trouve très importante, c'est leur activité de défense des droits des femmes en prison, parce qu'elles font pas que des entretiens à droite à gauche dans des grandes revues américaines, européennes. Non, à part ça, elles font aussi un travail quotidien juridique. Notamment, elles essayent d'aider les femmes en prison, parce que les droits des femmes en prison en Russie aujourd'hui sont vraiment pas du tout défendus et les conditions de détention sont affreuses. Donc elles essaient déjà de rendre publiques les conditions dans lesquelles se trouvent les prisonnières et de leur fournir de l'aide juridique dans les cas où elles sont par exemple refusées d'avoir un médecin ou d'être assistées psychologiquement ou d'avoir un avocat. Donc il y a des cas extrêmes où elles n'ont aucun droit et les Pussy Riot, utilisant leur capital médiatique comme un instrument de pression, essayent d'améliorer les conditions de détention de ces femmes. Donc ça, c'est une partie de travail que je trouve importante. L'autre partie qui est plutôt médiatique, ce n'est pas tant le résultat de l'oppression poutinienne que le résultat de la séduction de la culture pop aussi. Parce que je ne sais pas si vous êtes... vous connaissez Baudrillard, bien sûr, le fameux philosophe postmoderniste français qui a décrit le mouvement graffiti, par exemple, dans un de ses ouvrages, comme un exemple de comment le capitalisme dévore et digère et transforme toutes les formes d'opposition qui existent. Tout ce qui était auparavant un acte de rébellion peut devenir demain la mode. Ça peut devenir hipster, être vendu, etc. Et c'est ce qui s'est passé avec les Pussy Riot, qui sont devenus une emblème des jolies filles dans des revues de mode. Et elles savent bien utiliser ce capital médiatique dans leur travail juridique, comme je dis, mais quand même, ça fait un peu, ça rend un peu triste, cette histoire.
Est-ce que des performances produites dans l'espace public en Russie, des performances à caractère politique comme ça, sont bien accueillies par le public comment elles sont accueillies par le système et l'État? Est-ce que le système de répression est assez présent, actif? Ou est-ce qu'il y a une certaine permissivité? Comment est-ce que... Quel est l'état des lieux?
Alors oui, la question est très... ça me touche droit au cœur, en fait, parce que les deux questions sont liées. Alors, les performances à caractère politique en Russie sont de moins en moins bien perçues par la société, parce que la majorité des citoyens russes est devenue victime de la propagande poutinienne, qui se propage, entre autres, sur la sphère numérique. Et la propagande sur Internet, vous avez sans doute entendu parler de troll farms, les farms à trolls, donc, qui existent à Saint-Pétersbourg, entre autres, qui produisent des personnes qui vont laisser des faux commentaires sur Internet pour décourager l'opposition, pour la décrire en termes de criminel, de personnes vendues à l'Occident, de traîtres, d'espions, et ainsi de suite. Ce qui contribue à cette image négative de l'opposition, qui devient de plus en plus présente. Donc les performances sont souvent très mal perçues, et souvent les citoyens jouent eux-mêmes le rôle de la police, avant même que la police arrive. Notamment, on a été victime de ça avec mes camarades de performance, quand on a essayé de faire une action, justement, en soutien de Pussy Riot, avec une poupée de patriarche Kirill qu'on a fabriquée, qui faisait la taille humaine, donc la taille réelle de patriarche, et qui a été arrachée donc, par un croyant qui était à côté de là où on voulait faire une action. C'était à côté d'une cathédrale à Saint-Pétersbourg, qui a arraché la tête à la poupée qui nous a agressés, donc qui a agi un policier avant même que la police intervienne. Donc la répression, malheureusement, est devenue diffuse, comme dans Guy Debord et sa société spectacle
diffus et spectacle concentré.
Exactement.
C'est devenu à la fin de sa vie, lorsqu'elle écrit les commentaires, elle parlait de spectacle intégral ou intégré, je ne sais plus exactement. Où les deux, le spectacle diffus et le spectacle concentré, cohabitaient dans le même espace.
Oui.
En fait, il pourrait y avoir une appli contre les performances de rue. Hein, ça pourrait
exactement,
arriver.
Ouais.
Ben, écoutez, merci infiniment, Ksenia Hermochina. Merci beaucoup
merci
de votre
à
participation à cette série. Cette émission a aussi été rendue possible grâce à l'École des médias, à la Wikiradio WRC, à Choc FM et sera rediffusée éventuellement aussi sur les ondes de CKUT 90,3 Montréal. Si vous le permettez, Ksenia, bien sûr.
Bien sûr.
Alors,
avec
merci.
Plaisir.
Merci infiniment et bon séjour à Montréal.
Merci.
Merci, Louise.
Au
Drop. Listen. You smell something?
I'd call that a big yes.
I feel so funky.
Beckman, get a sample of this. This is hot, Ray.
I'm very excited. I'm very pleased. I want you to get right down there.
Something. Hey everybody, you are tuned in to CKUT 90.3. I'd like to say rest in power to Bunny Wheeler. And it's time for another episode of Listen, Do You Smell Something? Right here. Don't go nowhere.
Cajun moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my baby way too soon. What have you done, Cajun moon? Someday, baby, when you watch a man and you find him gone just like the wind,